« Bonjour, Monsieur Hartsfield, » dit Hal en cette soirée de décembre. « Je vous ai apporté quelque chose. J'espère que vous y jetterez un coup d'œil. » Il alluma le zapit et toucha l'écran pour faire apparaître la démo du Fishing Hole. Les poissons se mirent à nager et la musique à jouer. Comme à chaque fois, Hal fut apaisé. Et il prit un moment pour profiter de cette sensation. Mais avant qu'il puisse tourner la console pour que Hartsfield la voie, il se retrouva en train de pousser son chariot bibliothèque dans l'aile A, à l'autre bout de l'hôpital. Le zapit avait disparu. Voilà qui aurait dû le contrarier. Mais non, ça semblait tout à fait normal. Il était un peu fatigué et avait du mal à remettre de l'ordre dans ses pensées, mais sinon il se sentait bien, heureux. Il baissa les yeux vers sa main gauche et vit qu'il s'était dessiné un gros Z dessus avec le stylo qu'il gardait toujours dans la poche de sa blouse. « Z pour Z-Boy », se dit-il, et il rit. Brady n'avait pas pris la décision de sauter dans Biblial. Quelques secondes après que le vieux bonhomme avait baissé les yeux sur l'écran de sa console, il s'était retrouvé en lui. Il n'eut pas non plus la sensation d'être un intrus dans la tête du gars bibliothèque. Pour le moment, ce corps était le sien. Comme une berline de chez Hertz serait sa voiture aussi longtemps qu'il souhaiterait la conduire. La conscience profonde du gars bibliothèque était toujours là, quelque part. Mais ce n'était plus qu'un bourdonnement apaisant, comme le bruit d'une chaudière à la cave par un jour froid. Et pourtant, il avait accès à tous les souvenirs d'Alvin Brooks et à tout son savoir accumulé. Et le gars en avait accumulé pas mal. Car avant de prendre sa retraite, à l'âge de 58 ans, Biblial, alors connu sous le nom d'Ampère Brooks, exerçait le métier d'électricien à plein temps. Si Brady avait voulu recâbler un circuit électrique, il aurait pu le faire facilement, même s'il comprenait qu'il n'aurait peut-être plus cette compétence une fois revenu dans son propre corps. Penser à son corps l'alarma, et il se pencha sur l'homme avachi dans le fauteuil. Ses yeux étaient mi-clos, ne laissant entrevoir que le blanc. Sa langue pendait d'un côté de sa bouche. Brady posa une main noueuse sur la poitrine de Brady et perçut un lent mouvement respiratoire. Bon, de ce côté-là, ça allait. Mais mon Dieu, il avait une mine affreuse, la peau sur les os. Voilà ce que Hodges lui avait fait. Il quitta la chambre et fit le tour de l'hôpital, en proie à une espèce d'euphorie délirante. Il souriait à tout le monde. Il ne pouvait s'en empêcher. Avec Sadie MacDonald, il avait eu peur de foirer. Il avait encore peur, mais pas autant. Là, c'était mieux. Biblial lui allait comme un gant. Quand il croisa Anna Correille, la femme de ménage en chef de l'aile A, il lui demanda comment s'en sortait son mari avec la radiothérapie. Elle lui répondit que, tout bien réfléchi, Ellis tenait plutôt bien le coup, et elle le remercia d'avoir demandé. Arrivé dans le hall d'entrée, il gara son chariot devant les toilettes pour hommes, s'assit sur les WC et examina le zapit. Dès qu'il vit le balai des poissons, il comprit ce qui avait dû se passer. Les idiots qui avaient créé ce jeu avaient aussi créé, certainement par accident, un effet hypnotique. Tout le monde n'y serait pas sensible, mais Brady pensait que beaucoup de gens le seraient, et pas seulement ceux enclins aux syncopes légères comme Sadie MacDonald. Il savait par les lectures qu'il avait faites dans sa salle de contrôle du sous-sol que plusieurs consoles électroniques et jeux d'arcade pouvaient déclencher de l'épilepsie ou des hypnoses légères chez des personnes totalement normales, obligeant les fabricants à rajouter un avertissement, en caractères minuscules, sur la plupart des modes d'emploi. Ne pas jouer pendant une durée prolongée. Ne pas s'asseoir à moins de 90 cm de l'écran. Ne pas jouer si vous avez des antécédents épileptiques. Ce n'était pas un effet limité aux jeux vidéo. Au moins un épisode du dessin animé Pokémon avait été strictement interdit de diffusion quand une centaine de gosses s'étaient plaints de maux de tête, de troubles de la vision, de nausées et de pertes de conscience brèves. Apparemment, c'était dû à une séquence de l'épisode où une série de missiles était lancée, provoquant un effet stroboscopique. La combinaison des poissons et de la petite musique fonctionnait de la même manière. Brady était étonné que la compagnie qui fabriquait les consoles Zapit n'ait pas reçu une avalanche de plaintes. Il découvrit plus tard qu'ils en avaient reçu, mais peu. Il en conclut qu'il y avait deux raisons à cela. Premièrement, Fishing Hole lui-même, ce jeu débile, ne provoquait pas le même effet. Deuxièmement, presque personne n'achetait de console de jeux à pit. Dans le jargon du business informatique, c'était un brick. Poussant toujours son chariot, l'homme portant le corps de Biblial retourna à la chambre 217 et posa le zapit sur la table de nuit. Tout ça méritait davantage d'analyse et de réflexion. Puis, non sans regret, Brady quitta Biblial Brooks. Il y eut cette seconde de vertige, et puis il se retrouva à regarder vers le haut et non plus vers le bas. Il était curieux de voir la suite des événements. D'abord, Biblial resta planté là, un meuble ressemblant à un être humain. Brady tendit sa main gauche invisible et lui tapota la joue. Puis il essaya de pénétrer dans l'esprit de Hal, s'attendant à le trouver barricadé, comme celui de l'infirmière MacDonald une fois qu'elle sortait de sa fugue passagère. Mais la porte était grande ouverte. La conscience profonde de Hal était revenue, mais il lui en restait un peu moins à présent. Brady soupçonnait qu'une partie avait été asphyxiée par sa présence. Et alors, les gens se détruisent des neurones en buvant trop, mais ils en ont plein de rechange. C'était la même chose pour Hal, du moins pour le moment. Brady vit le Z qu'il avait dessiné sur le dos de la main de Hal, sans raison, juste parce qu'il en avait été capable, et parla sans ouvrir la bouche. « Hé, Z-Boy, allez, va-t'en, sors, repars dans l'aile A. Mais tu ne parleras de ça à personne, hein ?»«
Parler de quoi ?»
demanda Hal, l'air confus. Brady hocha la tête aussi bien qu'il le pouvait, et sourit aussi bien qu'il le pouvait. Il désirait déjà être dans Hal à nouveau. Le corps de Hal était vieux, mais au moins, il fonctionnait. « C'est ça, » dit-il à Z-Boy. « Parler de quoi ?» 2012 devint 2013. Brady ne se fatiguait plus à essayer de renforcer ses muscles télékinésiques. Cela ne servait plus à rien maintenant qu'il disposait de Hal. À chaque fois qu'il entrait en lui, son emprise était plus forte, son contrôle meilleur. Piloter Hal, c'était comme piloter un de ces drones que l'armée utilisait pour surveiller les bougnoules en Afghanistan, avant de bombarder la gueule de leur chef. Délicieux, vraiment. Une fois, par l'intermédiaire de Z-Boy, il avait montré un des apites au vieux Offret, espérant que Hodges serait fasciné par la démo du Fishing Hole. Être dans Hodges serait merveilleux. La première chose que Brady ferait serait d'attraper un crayon et de le planter dans les yeux du vieux flic. Mais Hodges jeta un rapide coup d'œil à l'écran et le rendit aussitôt à Biblial. Brady réessaya quelques jours plus tard. Cette fois, avec Denise Woods, l'assistante kiné qui venait dans sa chambre deux fois par semaine lui faire travailler les jambes et les bras. Elle prit le zapit quand Z-Boy le lui tendit et regarda le balai des poissons un peu plus longuement que Hodges. Quelque chose se passa, mais ce ne fut pas suffisant. Essayer d'entrer en elle était comme enfoncer le doigt dans une membrane en caoutchouc. Elle céda un peu, suffisamment pour que Brady entreaperçoive Denise donnant des œufs brouillés à son petit garçon sur sa chaise haute, mais ensuite elle l'éjecta. Elle rendit le zapit à Z-Boy et dit « Vous avez raison, ce sont de jolis poissons. Pourquoi vous ne continuez pas votre tournée maintenant, Hal ? Que Brady et moi fassions travailler ces fichus genoux ?» C'était donc ça. Il n'avait pas le même accès instantané aux autres qu'à Hal. Et Brady n'eut pas à réfléchir longtemps pour comprendre pourquoi. Hal avait été préconditionné à la démo du Fishing Hole. Il l'avait regardé des dizaines de fois avant d'apporter son zapit à Brady. C'était une différence cruciale et une déception écrasante. Brady s'était imaginé avoir des dizaines de drones à sa disposition, mais ça n'arriverait pas, à moins de trouver un moyen de reprogrammer le zapit et d'augmenter l'effet hypnotique. Était-ce possible ? Ayant lui-même trafiqué toutes sortes de gadgets électroniques en son temps, truc 1 et truc 2 par exemple, Brady pensait que oui. Après tout, le zapit était équipé de la Wi-Fi, et la Wi-Fi, c'était la meilleure amie du hacker. Imaginons par exemple qu'il programme un flash de lumière intermittent, un genre de lumière stroboscopique comme celle qui avait rongé le cerveau de ces gosses exposés à la séquence de tirs de missiles dans l'épisode de Pokémon. La lumière stroboscopique pourrait aussi avoir une autre utilité. Lors d'un cours de fac intitulé « Calculer le futur », c'était juste avant qu'il abandonne les études pour de bon, la classe de Brady avait étudié un rapport de la CIA datant de 1995 et rendu public peu après le 11 septembre. Il s'intitulait « Le potentiel opérationnel de la perception subliminale » et expliquait comment les ordinateurs pouvaient être programmés de manière à transmettre des messages si rapidement que le cerveau ne les reconnaissait pas comme des messages à proprement parler, mais comme des pensées originales. Imaginons qu'il puisse insérer de tels messages dans la lumière stroboscopique, comme par exemple « Dors bien maintenant » ou tout simplement « Détends-toi ». Brady pensait que toutes ces choses, combinées à l'effet hypnotique préexistant de la démo, fonctionneraient plutôt bien. Bien sûr, il pouvait se tromper, mais il aurait donné sa main droite, qui ne lui servait pratiquement plus à rien, pour savoir. Mais ça ne risquait pas d'arriver, car deux problèmes apparemment insurmontables se posaient. L'un était d'amener les gens à regarder la démo suffisamment longtemps pour que l'effet hypnotique prenne. L'autre était encore plus élémentaire. Comment diable était-il censé modifier quoi que ce soit? Il n'avait pas accès à un ordinateur. Et quand bien même, qu'en aurait-il fait? Il ne pouvait même pas lasser ses putains de chaussures. Il envisagea d'utiliser Z-Boy, mais renonça presque aussitôt à l'idée. Al Brooks vivait avec son frère et sa famille, et s'il devenait tout à coup expert en informatique, ça susciterait des questions. Surtout que la famille s'interrogeait déjà sur l'état de Hal, qui se montrait de plus en plus distrait et bizarre. Brady supposait qu'il le croyait au bord de la sénilité, ce qui n'était pas si éloigné que ça de la vérité. Il semblait que Z-Boy soit à court de neurones de rechange, tout compte fait. Brady sombra dans la dépression. Il avait atteint le point bien trop familier où ses idées lumineuses se heurtaient de plein fouet à la réalité grisâtre. C'était arrivé avec l'aspirateur Rolla. C'était arrivé avec son radar de recul informatisé. C'était arrivé avec son écran motorisé et programmable qui était censé révolutionner la télésurveillance. Ses magnifiques inspirations n'aboutissaient jamais à rien. Malgré tout, il avait un drone humain à portée de main. Et après une visite particulièrement rageante de Hodges, Brady décida qu'il pourrait se remonter le moral en mettant son drone au travail. En conséquence, Z-Boy se rendit dans un cybercafé à une ou deux rues de l'hôpital et après 5 minutes de recherche, de nouveau assis devant un écran d'ordinateur, Brady se sentit pousser des ailes, il découvrit où Anthony Moretti, alias l'enculé de gros tas de graisse broyeur de testicules, habitait. En sortant du cybercafé, Brady conduisit Z-Boy dans un magasin de surplus militaire et acheta un couteau de chasse. Quand Moretti sortit de chez lui le jour suivant, il trouva un chien mort étendu sur le paillasson. On lui avait tranché la gorge. Sur le pare-brise de sa voiture, écrit avec le sang du chien, figurait le message suivant. « Ensuite, c'est ta femme et tes gosses. » Faire ça, être capable de faire ça, remonta le moral de Brady. « La vengeance est une hyène, » pensa-t-il, « et cette hyène, c'est moi. » Des fois, il s'imaginait envoyer Z-Boy à la poursuite de Hodges et lui tirer une balle dans le ventre. Quel bonheur ce serait de se tenir au-dessus du vieux flic et de le regarder frissonner et gémir pendant que sa vie lui glisserait entre les doigts. Ce serait génial. Mais Brady perdrait son drone. Et une fois en garde à vue, Hal pourrait le dénoncer à la police. Et puis, il y avait autre chose de plus important. Ça ne suffirait pas. Hodges méritait plus qu'une balle dans le ventre suivie de 10 ou 15 minutes d'agonie. Bien plus. Hodges devait vivre, respirer l'air toxique dans un sac de culpabilité auquel il ne pourrait échapper jusqu'à ce qu'il craque et se tue. Ce qui était le plan initial, au bon vieux temps. Mais comment faire? Pensa Brady. J'ai aucun moyen d'arriver à ça. J'ai Z-Boy, qui finira en maison de retraite médicalisée si ça continue. Et je peux faire bouger les stores avec ma main fantôme. Et c'est tout. Fin de l'histoire. Puis, au cours de l'été 2013, la zone de dépression dans laquelle il vivait fut transpercée par un rayon de lumière. Il eut de la visite. Une vraie visite. Pas celle de Hodges, dit d'un costard-cravate du bureau du procureur venu voir si son état de santé s'était par magie suffisamment amélioré pour qu'il puisse comparaître pour une douzaine de chefs d'inculpation, dont, en tête de liste, 8 accusations d'homicide volontaire au City Center. Il y eut un bref coup à la porte, puis Becky Elmington passa la tête dans la chambre de Brady. « Brady, il y a une jeune femme qui voudrait vous voir. Elle dit avoir travaillé avec vous et elle vous a apporté quelque chose. Voulez-vous la voir ?»
Brady ne pouvait penser qu'à une seule jeune femme. Il envisagea de dire non, mais sa curiosité venait d'être ravivée, ainsi que sa perversité. Peut-être même que c'était la même chose.
Il hocha mollement la tête et fit un effort pour repousser ses cheveux de ses yeux. Sa visiteuse entra timidement, comme s'il pouvait y avoir des mines dissimulées dans le sol. Elle était en robe. Brady ne l'avait jamais vue en robe, n'aurait même pas imaginé qu'elle en possédait une. Mais elle avait toujours sa coupe en brosse foireuse, les cheveux tondus à ras du crâne, comme à l'époque où ils travaillaient ensemble à la cyberpatrouille de Discount Electronics, et elle était toujours aussi plate qu'une planche à repasser. Il se souvint de la blague d'un comique. « Si les miches comptent pour du beurre, alors on va entendre parler de Cameron Diaz pendant longtemps. » Mais elle avait mis de la poudre pour couvrir sa peau grêlée par l'acné. Incroyable. Et même une touche de rouge à lèvres. Encore plus incroyable. Elle avait un paquet emballé à la main. « Hé, mec !» dit Freddy Linklater avec une timidité inhabituelle. « Ça va ?» Tout un tas de possibilités s'ouvrirent soudain. Brady fit de son mieux pour sourire.